Je vous invite à prier pour commencer. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée et qui fidèlement a été transmise le long des siècles, le long des millénaires. C'est voilà, impressionnant quand on y pense à cette parole qui n'a pas été perdue, qui voilà, n'a pas été effacée, même si voilà, beaucoup ont essayé, mais ta parole est toujours là pour que nous puissions apprendre à te connaître. Et voilà, je te prie que tu nous ouvres les cœurs ce matin, que tu ouvres nos oreilles, que tu nous parles, Seigneur, par ta parole qui est vivante et qui est encore aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était voilà, il y a 2000 ans, quand voilà, ces derniers mots ont été écrits. Amen. Alors ce matin, nous allons en effet parler de la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans notre vie, même si intellectuellement, je pense qu'on est convaincu de l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la Bible, l'importance de connaître Dieu, ben, on n'a pas toujours une bonne relation avec la parole. Et ça peut être pour plein de raisons. Certains, parce qu'ils n'aiment pas lire. Voilà. Si on n'aime pas lire, des fois c'est plus compliqué d'entrer dans la parole. Parce qu'elle ne nous parle pas, ou parce que certaines parties au moins de la parole ne nous parle pas quand on les lit. Des fois aussi parce qu'elle nous reprend. Et ce n'est pas toujours évident de lire des choses qui nous reprennent, qui nous forcent à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos actions. Aussi parfois parce qu'elle dit des choses difficiles à comprendre, des choses difficiles à vivre. Et voilà, des fois, quand on est en train de lire et qu'on ne comprend pas, c'est difficile. Peut-être aussi parce qu'on a eu des mauvaises expériences où on nous forçait à lire et quand on n'avait aucun intérêt pour ça. Mais ce matin, je vais vous inviter à lire avec moi un passage qui nous parle de ce qu'est la parole, de notre rapport à elle, mais aussi de tout ce qu'elle a à nous apporter. Et donc ce passage, c'est le psaume 119. Alors, on ne va pas lire tout le psaume, on va se restreindre aux 32 premiers versets. Et je prendrai quelques versets dans la suite, mais on va se concentrer plus sur le début du psaume. Mais le psaume 119, qu'est-ce que c'est? Et ça peut nous paraître bizarre, voilà. Un psaume qui nous parle de la parole de Dieu, mais voilà, qui nous parle avec un poème. Alors, on n'a pas tout à fait la même retranscription en français, la même beauté du poème, puisqu'à la base en hébreu, c'est un poème acrostiche, ce qui veut dire que il y a donc 22 paragraphes de 8 lignes, avec chaque paragraphe, les 8 lignes qui commencent par la même lettre. Donc voilà, si on faisait un poème similaire en français, ce serait un premier paragraphe qui commence par A, 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 puis le deuxième B, 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 et ainsi de suite. Alors, on n'a pas ce côté, on va dire, on n'a pas la forme aussi poétique qu'on a en hébreu, mais on a quand même voilà, quelque chose de très, très lyrique, très poétique, et qui nous montre l'amour de ce psalmiste pour la parole. Et c'est ce qu'il veut nous transmettre. Et j'espère que c'est ce que nous arriverons aussi un peu à percevoir ce matin, cet amour pour la parole de Dieu. Et donc, voilà, je vous invite à lire avec moi, donc, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 32. Et voilà, le début, ça pourra vous rappeler aussi le psaume 1, le tout début. Mais voilà, lisons ensemble. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors, je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit, en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Et donc, je vous propose dans ce psaume très beau sur la parole, de regarder d'abord ce que le psalmiste dit sur la parole elle-même. Qu'est-ce que c'est que la parole? Quelles sont ses caractéristiques? Ensuite, nous allons nous intéresser à notre relation à la parole. Quelles émotions avons-nous face à la parole? Quelles attitudes avons-nous à avoir? Et ensuite, on finira en réfléchissant comment entretenir notre relation avec la parole. Comment, en pratique, vivre une vie proche de la parole. Et donc, je propose de commencer avec la parole. Qu'est-ce que la parole? Et je pense que ça ne vous a pas échappé quand on a lu le passage, tous ces synonymes que donne le psalmiste. Il nous parle de la parole, de la loi, des instructions, des décrets, des commandements, des sentences, des prescriptions. Et bon, je pense qu'une première raison, c'est simplement, s'il disait tout le temps la parole, ce ne serait pas très joli, ce serait un peu rébarbatif. Déjà, dans tout le psaume, plusieurs de ces différents mots sont cités plus de 20 fois. Donc si on disait la parole chaque fois, je pense qu'on aurait dit au moins 120 ou 140 fois dans les 170 versets le mot parole. Mais en tout cas, on a ces synonymes avec... Bon, des légères nuances, mais voilà. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces mots? Elles nous parlent de ce que Dieu a révélé sur lui, ses prescriptions, ses sentences, ses commandements. Ça nous révèle sa morale. Qui est Dieu et qu'est-ce que ça veut dire, plaire à Dieu? Ça nous révèle aussi sa relation à l'homme. Comment est-ce que l'homme interagit avec Dieu? Comment est-ce que l'homme peut plaire à Dieu? En tout cas, la parole de Dieu, c'est ce qui permet de connaître Dieu, permet de savoir qui il est. Et ce sont ses lois, sa morale, qui nous révèlent notre péché, qui nous révèlent sa justice, sa sainteté, et de l'autre côté, notre péché, qui fait qu'on n'est pas à la hauteur. Tout ça, c'est la Bible qui nous le révèle. Et le psalmiste n'avait pas toute la Bible que nous avons aujourd'hui, il n'avait que des portions de l'Ancien Testament, notamment la Torah, donc, qui est voilà, ce qu'on appelle aussi la loi. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'avait le psalmiste, mais nous avons aussi tout le reste de la Bible, l'Ancien Testament tout entier, le Nouveau Testament, qui nous parle de Dieu. Et qui nous révèle son projet pour l'humanité. depuis la création jusqu'au retour final de Christ et la vie dans l'éternité avec lui. Et voilà, on pourrait partir de là et se dire, bon, d'accord, donc le psalmiste est très heureux de lire tous ses commandements, ses lois. Bon, ça fait très choses qu'il faut faire, choses qu'il ne faut pas faire. Mais le psalmiste utilise aussi deux autres mots que je n'ai pas cités tout à l'heure. Il nous parle aussi des voies et des sentiers. Et la parole ne nous propose pas juste, voilà, des règles, une loi à suivre pour plaire à Dieu. Mais elle propose deux voies, deux chemins, deux sentiers possibles pour notre vie. Dans les versets 29 et 30, le psalmiste parle de la voie du mensonge et de la voie de la fidélité. Et donc, qu'est-ce que sont ces voies? Ce sont les voies avec Dieu et sans Dieu. La voie de l'homme juste qui cherche à plaire à Dieu, même s'il n'y arrive pas toujours. Et la voie de l'homme méchant, qui ne cherche même pas à connaître Dieu. Et donc, au final, ce qui compte, et ce que le psalmiste va nous parle, de la façon de vivre qui plaît à Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, plaire à Dieu? Vivre d'une façon qui plaît à Dieu? Alors oui, c'est être en adéquation avec la morale de Dieu. Chercher à le suivre, chercher à vivre à ses côtés, à vivre selon sa morale. Et là, on peut se dire, c'est dur quand même, c'est lourd. Mais je vous propose de relire le verset 32. Le psalmiste, quand il voit ses commandements, quand il voit cette voie, il dit, je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Et donc, il ne s'agit pas de quelque chose de lourd, quelque chose, on va dire, un carcan qui nous enferme. Non, c'est Dieu nous épanouit quand nous sommes sur son chemin. Et de toute façon, nous ne pouvions pas respecter la loi. Nous ne pouvions pas respecter tous les commandements de Dieu. Et du coup, c'est pour ça que Jésus a dû venir pour accomplir la loi, pour que nous puissions être sauvés par la grâce et que nous vivions une vie libre du péché dans les voies de Dieu. Et c'est ce que dit le psalmiste au verset 29. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Ce que nous raconte la parole de Dieu, c'est que on ne peut pas obéir aux commandements de Dieu, même s'ils sont bons, même s'ils sont parfaits. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la grâce et pour que nous puissions vivre d'une façon libre du péché. Et donc, quelles sont les caractéristiques de cette parole? Donc, cette parole qui nous parle des commandements de Dieu, de ses voies, de ses chemins. Alors, une première caractéristique importante, c'est que cette parole vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste nous rappelle quasiment à chaque moment que c'est tes prescriptions, que c'est ses instructions. Voilà, tout tourne autour de Dieu et c'est lui qui donne. Et quand on regarde la Bible, voilà, nous regardons la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, on a Paul qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et même s'il y a des auteurs humains, ce psalmiste, David, voilà, Paul, toutes les personnes qui ont écrites, qui ont mis sur papier la Bible, ben, ça reste la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, cette parole est aussi vraie, véritable. On peut s'y fier et se baser dessus. Un verset qu'on n'a pas lu, au verset 142, ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est vérité. La loi de Dieu est vérité, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est aussi parfaite et intemporelle. Au verset 89, nous lisons, ta parole éternelle et pour toujours établi dans le ciel. Au verset 96, je vois un terme à tout ce qui est parfait. Tout va s'arrêter. Mais tes commandements sont sans limite. Au verset 160, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Dieu ne change pas, et sa parole non plus. Et ça ne veut pas dire que nous sommes toujours sous la loi, avec ses cérémonies, toutes les règles pour rendre le peuple de Dieu distinct. On n'a pas besoin d'avoir des choses qui pendent de nos habits ou des phylactères avec la parole de Dieu. Mais la morale de Dieu ne change pas. Et Dieu veut toujours nous parler par sa parole aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous révèle aussi la justice de Dieu. Elle est conforme à sa justice. Au verset 75 du psaume 119 nous dit « Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. » Et donc la parole, avec toutes ses caractéristiques, cette parole vraie qui nous vient de Dieu, parfaite et intemporelle, elle a l'objectif de nous révéler qui est Dieu et comment vivre avec lui. Et donc, comment agir vis-à-vis de cette parole? Quelle est notre attitude à avoir? Qu'est-ce qu'elle nous apporte dans notre vie? Alors, le psalmiste est assez clair que la parole n'est pas faite juste. Voilà, c'est pas juste un plaisir intellectuel qu'il a à lire les commandements. Le plaisir vient aussi de ce qu'on vit en conséquence. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Jacques 1, les versets 23 et 25, nous dit « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et donc, vivre en conséquence, ça nous montre que la parole de Dieu est indissociable de comment on l'applique dans notre vie. Et donc, quelle attitude avoir vis-à-vis de la parole? Il y a ce respect, cette obéissance, cette fidélité à ce qu'elle nous dit. Et en réponse, qu'est-ce que la parole nous apporte? Donc, comme on a lu, heureux l'homme qui vit en adéquation avec cette parole. Si on suit les voies de Dieu, c'est un bonheur qu'on ne trouve pas ailleurs. Le verset 25 nous parle des promesses de Dieu. Je suis affalé dans la poussière, rends-moi la vie conformément à ta parole. La parole de Dieu nous annonce ce que Dieu a promis. Il nous annonce des choses qui s'accompliront pour sûr. Elle nous permet d'avoir cette espérance. Cette espérance, par exemple, que Christ reviendra. Cette espérance que nous serons avec lui pour toujours. Dieu nous donne des promesses dans sa parole. Et donc, qu'est-ce que c'est beau de pouvoir entrer dans cette parole et redécouvrir tout ce que Dieu nous promet. Au verset 6, le psalmiste parle, nous dit « Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. » Et c'est vrai qu'il y a ce côté, si on lit la parole et qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'elle dit, on a du mal, ça nous reprend. Et donc, si on cherche à être en adéquation avec la parole, ça permet de ne plus avoir honte quand on lit des versets qui nous reprennent. Là, c'est pas, le côté Là, ça ne nous parle pas de, on va dire, de la colère de Dieu contre quelqu'un qui est racheté, quelqu'un qui a accepté de suivre Christ, puisque Dieu n'est plus en colère contre nous, comme Jésus a pris la colère sur lui, quand il est sur la croix. Mais dans 1 Jean 2, Jean nous dit, à la fin du chapitre, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et donc, la parole est aussi une invitation à ne pas pécher, une invitation à suivre les voies de Dieu. Et au verset 11, voilà, le psalmiste nous le rappelle aussi. Pourquoi est-ce qu'il sert la parole de Dieu dans son cœur? Afin de ne pas pécher contre toi. Et voilà, la parole a beaucoup d'autres intérêts. Le verset 24 nous dit que ces instructions sont nos conseillers. Enfin, non, sont nos conseillères, une instruction. Ce sont aussi de bons conseils, non, enfin, donc de bons conseils. Ce sont aussi quelque chose qui nous apporte de la force quand les choses vont mal. Au verset 25, ces promesses nous aident à avoir la joie dans la souffrance. Et au verset 28, relève-moi conformément à ta parole. En tout cas, voilà, toutes ces choses que la parole nous apporte, elle nous les apporte avec l'aide de Dieu. Et donc là, on va dire, c'est des choses dans notre vie, quand on applique la parole, quand on la lit, quand on s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle produit en nous? Qu'est-ce que nous pouvons y trouver? Mais quelle réaction avoir face à cette parole? Le psalmiste ici, il nous parle de son amour pour la parole. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a toujours. Voilà, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut dire que voilà, on trouve nos délices dans la parole de Dieu. Mais voilà, quand on regarde tout ce qu'elle nous apporte, tout ce que Dieu nous dit, toutes les façons dont il se révèle dans sa parole, comment ne pas aimer ce qu'il nous dit? On peut aussi avoir de la joie au verset 14. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. La joie de connaître Dieu, la joie de le suivre, la joie de se savoir aimé par lui. Au verset 16, le psalmiste fait des délices, fait de la parole ses délices. Au verset 24, ses instructions sont son plaisir, font son plaisir. Et que nous puissions apprendre à prendre notre plaisir dans la parole en prenant plaisir à en apprendre plus sur Dieu, en prendre plaisir à mieux comprendre sa relation avec nous, avec les hommes. Et voilà, que nous puissions avoir ce désir de connaître toujours plus Dieu. Et donc, comment rester en relation avec cette parole? Comment travailler cette relation avec elle? Travailler cet amour, cette joie, ce désir, ces délices. Le psalmiste, voilà, nous propose plusieurs pistes. D'abord, peut-être redire combien la parole est bien. Au verset 172, le psalmiste dit: Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Qu'on puisse déjà se dire à nous-mêmes, redire toutes les qualités de la parole. Au verset 13, le psalmiste dit qu'il énumère toutes les sentences de Dieu. Et donc, voilà, relire, redire, nous permet aussi de nous replonger dans la parole. Au verset 15, le psalmiste parle de méditer la parole. On reviendra sur la méditation tout à l'heure. Mais voilà, de réfléchir à la parole, s'y replonger. Aussi, la mémoriser au verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La mémoriser pour, comme Jésus, peut-être le ressortir lors de la tentation, lors de la souffrance, lors de l'épreuve, mais aussi pour l'avoir proche de nous. Et enfin, le psalmiste, et je pense que ça devrait être notre réponse aussi, notre attitude première, demande l'aide de Dieu qui la donne. Au verset 17, il demande de faire du bien au serviteur de Dieu. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Donc là, il dit, Seigneur, aide-moi dans ma vie pour que je puisse te suivre. Le verset 29 aussi, qu'on a lu tout à l'heure, éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Nous ne sommes pas seuls dans notre relation à la parole. Dieu est là avec nous et Dieu veut aussi nous assister dans notre compréhension, notre assister dans nos, aussi dans notre mise en pratique. Avec Dieu, nous pouvons trouver notre plaisir dans la parole. Et donc, en pratique, comment est-ce que ça se vit dans notre vie de tous les jours? De façon personnelle, je pense que ça commence par une certaine lecture, potentiellement une écoute de la Bible par MP3, par exemple, où là, on va dire, c'est un peu le niveau 1 nécessaire, la base. Sans, on va dire, sans lecture, sans s'intéresser à la parole, notre croissance va être limitée parce que notre connaissance de Dieu personnelle sera limitée aussi. Ensuite, peut-être la mémoriser. C'est vrai que quand on est enfant, souvent en école du dimanche, on apprend des versets. Quand on est adulte, des fois, on le fait un peu moins. Mais pourquoi pas commencer avec le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure, mais le psalmiste a dit il y a longtemps, nous a parlé de la méditation. Et ce n'est pas une méditation comme on en parle dans des religions un peu plus orientaux, exotiques, pas une méditation où on fait le vide, mais au contraire, une méditation où on se remplit, une méditation où on réfléchit. On creuse, on ressasse, on rumine sur cette parole. Par exemple, ça peut être juste prendre un verset, de se le redire, mettre des accents sur des mots différents, réfléchir à ce que Dieu dit dans sa parole. Enfin, on peut aussi étudier de façon personnelle, creuser le texte, regarder le contexte, observer, interpréter, appliquer. Là, c'est vraiment aller plus que juste la lecture, mais vraiment creuser le texte. Et la parole se vit aussi de façon communautaire, pas juste tout seul, chez soi, même si c'est une partie importante, mais aussi ensemble. Ça peut être, par exemple, dans les groupes de maison, les études bibliques à l'église, où nous étudions la parole ensemble, nous échangeons sur ce que nous comprenons. Nous partageons nos connaissances, où ensemble, on va comprendre mieux qui est Dieu. Ça peut être dans des groupes de croissance, à deux ou trois personnes, où on se retrouve régulièrement en ayant lu de la parole pour échanger sur les textes, mais aussi pour échanger, pour avoir de la redevabilité les uns envers les autres. La redevabilité, qu'est-ce que c'est? C'est être redevable à l'autre sur notre application de la parole, sur comment est-ce qu'on l'applique dans notre vie, mais aussi, ça peut être sur notre marche dans les voies de Dieu, ou tout simplement notre lecture de la parole. En tout cas, ça, c'est les groupes de croissance sont un outil pour s'encourager mutuellement à grandir, tout comme les groupes de maison par ailleurs. Ensuite, il y a les prédications. Que ce soit le dimanche matin, que ce soit à des événements plus particuliers comme Voilà, certains du groupe de jeunes ont été le week-end dernier à l'IBG pour le week-end de Pâques, où voilà, on a des prédications, des personnes qui creusent un texte, qui étudient un texte pour le présenter. Et la prédication, comme les autres domaines, bah, ça doit être basé sur la parole de Dieu, sur cette parole que Dieu nous a donnée pour que nous le connaissions. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la prédication textuelle, voilà, qu'on peut comparer avec la prédication thématique. Dans l'idée d'une prédication textuelle, le point de départ, c'est le texte biblique. Bon, généralement, quand on dit prédication textuelle, c'est plutôt un passage, mais ça peut être plusieurs extraits de la Bible aussi. Et c'est ce texte, donc cet extrait de la parole qui est lu, expliqué et appliqué. De façon fidèle à l'intention de l'auteur, donc pas en prenant hors de son contexte, mais vraiment respectant le contexte dans lequel il a été écrit, et aussi en faisant les liens à faire avec le reste de la révélation biblique. Et se concentrer sur un texte, en particulier, a plusieurs avantages. Bon, on va dire des intérêts un peu plus pédagogiques, c'est plus facile à suivre que si on saute de texte en texte, plus facile aussi de garder le contexte d'un seul texte, le contexte en tête, moins de risques aussi de prendre des textes hors de contexte pour justifier un propos. Voilà, c'est vraiment dans cette idée de rester fidèle à la parole de Dieu le plus possible. Et si nous faisons, on va dire, une série de prédications textuelles dans un même livre, donc là on parle de prédications textuelles suivies, l'intérêt aussi c'est de devenir plus familier avec le livre en entier et son message global. Et non, je ferme la parenthèse. Et dans tout ça, donc que ce soit de façon personnelle, de façon communautaire, dans notre lecture, dans notre méditation, dans notre étude, dans notre écoute de la parole de Dieu, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait la prière en filigrane. C'est Dieu qui nous donne la grâce de le connaître et de suivre ses voies. En conclusion, voilà, quand on regarde notre relation à la parole de Dieu, je pense que ce n'est pas toujours au beau fixe. On a des moments où on prend beaucoup de plaisir à lire et d'autres moments peut-être où on a un peu plus de mal. Mais que ce soit parce qu'on a du mal avec la lecture, du mal à mettre à part du temps, du mal à comprendre, je pense qu'il est clair que nous ne vivons pas toujours l'amour qu'exprime ce psalmiste. Cet amour, il a quand même écrit un psaume tout entier sur cette parole de Dieu. Et je ne veux pas qu'on sorte de ce culte démoralisé en se disant je ne lis pas assez la Bible, j'arrive pas à y trouver du plaisir, je ne vis pas cet amour pour la parole. Ce psalmiste, manifestement, lui, il avait tout compris, il aimait la parole, mais moi, j'y arrive pas. Mais soyons rassurés par ce passage dans Ésaïe 55, que Mamie a d'ailleurs lu tout à l'heure, hein, les versets 10 et 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Alors que ce soit facile ou non, que nous y trouvions du plaisir ou non, la parole de Dieu n'est pas sans effet dans notre vie. Et donc, si vous ne marchez pas sur les chemins de Dieu, si Jésus n'est pas encore votre sauveur, s'il n'est pas encore votre Seigneur, Dieu veut se révéler à vous par sa parole. Il veut vous montrer qui il est et ce qu'il a fait pour vous. Et si vous suivez le Christ, si vous lui avez donné votre vie, sa parole est précieuse pour vous. Et même si des fois on a du mal à le vivre, demandons à Dieu de nous donner soif de sa parole. Soif de sa parole aussi, parce qu'elle nous permet de le connaître toujours plus. Et je vous propose de prier. Notre Dieu, ta parole nous révèle qui tu es. Elle nous révèle ce que tu as fait pour nous en envoyant ton Fils à la croix. Elle nous révèle qu'aujourd'hui, si nous choisissons de te suivre, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Merci notre Dieu, parce que cette vie, tu nous la donnes en abondance. Et ta parole est un vrai réconfort dans les moments de difficulté, dans les moments où on a du mal à savoir où aller, Seigneur, il y a ta parole. Et Seigneur, donne-nous cette soif de te connaître et cette soif de te chercher dans ta parole. Amen.